chers auditeurs, chères auditrices de Mets de Résistance Radio Galère 88.4, bonjour. Nous entamons une nouvelle émission de la série des émissions sur la guerre d'Algérie, avec l'épisode 6 aujourd'hui, à la lumière du rapport Benjamin Stora, les rapports France-Algérie. Je suis en train en ce moment de parler d'événements qui souvent ont porté, si ce n'est à polémique, du moins à lourd silence bien pire que la polémique, qui sont les massacres du 17 octobre 1961 à Paris, lorsque des milliers d'Algériens manifestent, des Algériens vivant en France manifestent dans les rues pour manifester leur accord avec l'indépendance algérienne. On est alors en 1961, et donc c'est juste avant l'indépendance de la guerre d'Algérie, et il y a et ça dégénère, ça marche pas bien. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont transportés par camion ou camionnette dans les commissariats, et beaucoup meurent. Il y a beaucoup de morts, surtout parmi du côté algérien, et surtout il y a cette machine à étouffer la vérité qui se met en marche, qui fait qu'on ne dira pas tout de suite la vérité, et qu'aujourd'hui encore on n'est pas sûr du nombre exact de morts, on n'est pas sûr de ce qui s'est passé exactement, on n'est pas sûr des responsabilités des uns et des autres, et donc les historiens sont différents, différents historiens mettent en avant leur interprétation du phénomène historique. Et nous avons vu la semaine dernière, on a parlé de plusieurs historiens qui sont spécialisés dans le traitement et la lumière sur ces phénomènes historiques-là. Donc on a parlé de Jim Hawes et Neil McMaster, par exemple. Il y a aussi Benjamin Stora, bien entendu, dont on étudie le rapport en ce moment. Jean-Luc Enaudi, qui est aussi un historien, et Jean-Paul Brunet. Donc, ils ne sont pas d'accord, notamment, sur le nombre de morts. Pour Jean-Paul Brunet, par exemple, il y en aurait eu... beaucoup moins que ce que dit Jean-Luc Enaudi, qui nous dit qu'il y en a 57, et que en fait Jean-Paul Brunet, il y a des querelles de chapelle parce que Jean-Paul Brunet accuse Jean-Luc Enaudi d'avoir manipulé les chiffres et d'avoir additionné des personnes disparues qui n'avaient rien à voir avec le phénomène, ou qui seraient mortes avant ou après. Donc voilà, c'est pas évident, les théories sont différentes. Cela dit, nous, on va essayer un petit peu d'en parler. Donc, simplement, je voulais rappeler ce que j'avais dit en fin d'émission la semaine dernière, c'est que ce drame, et c'est un double drame, parce que d'abord, il y a le drame en lui-même, et puis ensuite, le drame du silence, et le drame de la manipulation des faits historiques, et le drame de la récupération du phénomène par des groupes qui, a priori, n'auraient rien à voir et qui profitent de ce qui s'est passé pour en tirer des fruits positifs, alors que normalement, elles ne devraient pas le faire. Elles n'ont aucun lieu de le faire. Et ce n'est pas du tout légitime. Juste après les massacres d'octobre 1961, il y a trois écoles qui veulent oublier. Et c'est là qu'on voit ici, derrière tout ça, je vous avais dit qu'on allait parler du rapport Benjamin Stora. J'ai bien quand même mis en avant le fait que le rapport Benjamin Stora émane d'une commande de l'État français, que c'est le président de la République qui a commandé à Benjamin Stora ce rapport-là. On se replace dans un contexte historique qu'on connaît maintenant, parce qu'à la lumière des émissions précédentes, on a parlé des rapports entre la France et l'Algérie, et notamment on a parlé de la problématique liée aux commémorations et du fait qu'il y ait qu'en fait on y soit allé tout doucement. On est parti de la période gaullienne où il y a une volonté d'oubli qui est très évidente. C'est une volonté d'oubli qui est partagée en plus, parce qu'elle est partagée aussi par le Front de Libération Nationale et par les résistants algériens qui souhaitent qu'on ne dise pas tout, parce que eux-mêmes, au sein de leur mouvement militaire puis politique, ils n'étaient pas toujours clairs, ils n'étaient pas toujours d'accord les uns avec les autres. Et puis, dans un deuxième temps, on a affaire à une série de lois d'amnistie. Le général de Gaulle amnistie à tout va, de façon à ce que les uns et les autres se taisent. Et en échange, certains ont eu droit à l'immunité, c'est-à-dire qu'il y a eu des massacres ou des exactions qui ont été commises et qui sont graves au regard des droits de l'homme, au regard de la dignité humaine, et qui n'ont pas été sanctionnés. Donc beaucoup aujourd'hui, Amnesty International, la première, sont les associations qui proclament des lois qui sont contre le fait qu'on ne punisse pas, ce qu'on appelle l'impunité. C'est quelque chose qui sévit beaucoup dans le monde aujourd'hui et qui fait que, c'est en grande partie à cause de ce phénomène-là, qu'on n'est pas toujours dans des états de droit et que le droit international n'est pas respecté. Alors que normalement, je pense qu'on devrait tendre pour aller vers une société pacifique. Je pense, comme Léon Bourgeois, que l'on devrait tendre vers une primauté du droit international. Mais cela dit, une primauté du droit international, mais attention, soyons prudents, qui ne remettrait pas en cause pour autant les indépendances et les souverainetés des États. Mais c'est tout à fait conciliable. Donc, à cette époque-là, on était encore en plein dedans, de toute façon. On se souvient très bien que l'État d'Israël, il n'y a pas si longtemps que ça, avait fait venir Eichmann chez elle au mépris du droit international pour le juger elle-même, alors que normalement elle aurait été dû être, selon le droit international, être jugée par un tribunal international spécifiquement conçu pour l'occasion et lié au phénomène de l'Holocauste. Et ici c'est pareil, on avait l'habitude, c'est pour dire, et donc c'est pareil, on multiplie les lois d'amnistie de façon à ce que les uns et les autres se taisent. Donc il y a la France qui ne veut pas qu'on fasse trop de bruit. Pourquoi ? Parce que la France cherche à la fois, après l'indépendance, elle cherchera à la fois à maintenir des liens d'amitié et notamment des liens économiques qu'elle souhaite préserver avec l'Algérie. Et puis en même temps, ça c'est le côté officiel. Et le côté officieux réside dans le fait que la France et l'Algérie vont toutes les deux s'entendre pour taire certaines choses. La France cherchant à maintenir son hégémonie sur l'Algérie, malgré le fait que l'Algérie ne fasse plus partie de l'empire colonial, qui est désormais détruit, à travers la France-Afrique. Les réseaux France-Africains, je l'ai dit il y a quelques émissions, couvrent non seulement l'Afrique plus au sud, l'Afrique, ce qu'on dit, appelle l'Afrique noire, l'Afrique de l'eau subsaharienne, et l'Afrique centrale, mais elle recouvre aussi, bien sûr, l'Afrique du Nord. Et elle est très forte et très, très, très importante en Algérie, où elle a des réseaux très denses. Et ces réseaux sont en grande partie, il ne faut pas croire, alimentés par des politiques et des hommes d'influence qui sont d'origine algérienne, qui ont joué un rôle important dans la résistance algérienne, qui ont été fait partie du Front de Libération Nationale. Et ces gens-là ont beaucoup aidé les Français à s'implanter, moyennant, bien entendu, la préservation de certains intérêts. Donc ça, c'est pas l'objet de notre émission tout de suite, mais on verra qu'après 1962, ça a été très difficile pour les Algériens de s'émanciper, puisqu'ils sont passés d'une domination à l'autre. Et le phénomène de montée en puissance des apparatchiks et de monopolisation du pouvoir pour préserver leur intérêt personnel est très fort chez les Algériens. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle actuellement c'est toujours l'armée qui gouverne et pour laquelle il n'y a pas de vie politique à proprement parler. Ça, c'est la corruption, la corruption et bien entendu qui est liée très fortement à la préservation de liens d'intérêt avec la France, à travers la France-Afrique. Et puis le deuxième fléau algérien, on va dire que c'est le fait que les Algériens sont divisés entre eux. Ils sont très régionalistes. La configuration des pays d'Afrique du Nord étant plus qu'en France, parce que l'État unifié est arrivé beaucoup plus tard en Afrique du Nord que dans les pays européens. Donc au départ, on avait le même socle qui était un socle autour de la Méditerranée, qui était un socle de démocratie à l'athénienne. Et puis progressivement, ils se sont démarqués les uns des autres parce que l'État unifié arrive beaucoup plus tard dans les pays du Maghreb et du Machrek. C'est d'ailleurs Mohamed qui l'invente avec Médine et... l'Algérie va être colonisée plus tard par les Arabes, elle apprendra et par les Turcs, et c'est là qu'elle apprendra à être un État unifié. Mais auparavant, elle est restée bien plus longtemps que les pays européens, certains pays européens du Sud, avec une forme d'organisation sous mode tribal et sous mode où il y a une prééminence du pouvoir de la démocratie locale. C'est la raison pour laquelle ce chauvinisme n'a pas encore disparu, il est encore présent chez nous en France, mais moins fort, parce que d'abord on a eu 600 ans de colonisation romaine d'envergure, mais avant on avait des États. L'État unique avec l'idée de nation est présente depuis longtemps, alors qu'en Algérie elle est très récente en fait dans l'histoire. Donc ce chauvinisme régional est resté. En plus, il y a eu des rancœurs parce qu'il y a eu des déplacements de population dès l'Antiquité à cause des invasions. Et notamment les Berbères se sont disséminés un petit peu de partout. Donc tout ça crée des dissensions. C'est ce qui fait que le deuxième fléau de l'Algérie, le deuxième phénomène qui fait que l'Algérie n'est pas un État démocratique qui se s'autorégule, qui s'autogouverne, est lié justement à ces dissensions entre régions. Et puis il y en a un troisième que l'on élucidera peut-être à la fin de l'émission, à la fin de cette série d'émissions, on essaiera de trouver quel est le troisième fléau qui fait que l'Algérie n'est pas encore un pays heureux, comme disent certains, qui nous dit que l'Algérie n'a pas de chance. C'est Ferhat Abbas qui le disait, j'avais cité son texte, un texte qui est issu de ses pensées et que Benjamin Stora a voulu nous retransmettre dans son rapport. Et pour revenir au rapport Benjamin Stora, c'est une commande de l'État qui correspond dans l'histoire du gouvernement français et des relations franco-algériennes, qui correspond à un stade qui commence avec les lois d'amnistie et une volontaire idée d'oubli dès 1962 sous De Gaulle, et qui continue progressivement avec... Bien entendu, le maintien de liens économiques forts, et quand je dis liens économiques forts, je veux uniquement parler des intérêts ou des gains qu'a pu en retirer la France, et puis bien entendu les personnes privilégiées qui ont la citoyenneté, qui vivent en Algérie, et puis après, progressivement, il y a eu une évolution, il y a eu quelques reconnaissances, une petite phrase par-ci par-là de Nicolas Sarkozy. Ensuite, entre coup de Karcher et test ADN sur les enfants de moins de 3 ans. Et puis en plus, après, on a eu François Hollande qui, lui, a fait quelques pas en avant, certes, en reconnaissant certaines choses. Et on va voir tout à l'heure que François Hollande a fait un effort pour reconnaître les massacres d'octobre 1961. C'est un premier petit pas de la part de la France, qui d'un autre côté a aussi des choses à se reprocher, par exemple le fait d'avoir laissé certaines personnes comme Maurice Papon, qui avait fait partie de la milice qui a torturé des résistants français, être préfet. Voilà, donc elle aussi a des choses à se reprocher, elle aussi y va avec des mains de velours, avec des mains dans un gant de velours, elle aussi n'a pas du tout intérêt à ce qu'on aille trop vite et à ce qu'on dévoile trop les choses, parce que justement elle a des choses à se reprocher, notamment quand je reparle de Maurice Papon, on a aussi eu Klaus Barbie, donc et peut-être que derrière Klaus Barbie et Maurice Papon, il y a encore pire. Peut-être qu'il y a, d'autres choses, d'autres concessions qui ont été faites au nazisme et au fait de collaborer avec l'Allemagne nazie sous la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on des personnes qui auraient peut-être joui de certains privilèges et eu la possibilité d'avoir du pouvoir alors qu'elles auraient normalement dû être arrêtées, en tout cas pas du tout disposées de positions sociales privilégiées. Et donc la France a intérêt à se taire, l'Algérie a intérêt à se taire aussi, donc ça fait un grand silence et une complicité entre deux pays qui aujourd'hui, je n'oserais pas encore dire qu'ils sont jumeaux, parce que pour moi, ils ne sont pas encore à égalité. Au niveau de l'émancipation, sachant qu'ils ont tous les deux des défauts. Je pense qu'ils ne pourront qu'avancer ensemble. Si on ne parle pas encore de gémellité réelle entre la France et l'Algérie, c'est parce qu'il y a eu trop de troubles, trop de rancœurs, trop d'événements négatifs qui sont survenus. Et je trouve que c'est très important que la France et l'Algérie comprennent qu'ils ont intérêt à évoluer ensemble, au-delà, bien sûr, de toutes les fausses croyances, de tous les clichés qu'on peut avoir les uns et les autres qui sont liés à l'histoire. Chez le français, c'est l'image de l'arabe qui est d'ailleurs très bien retranscrite dans Albert Camus. Chez Albert Camus, c'est l'Algérien ou l'Arabe qui effectue des basses besognes qu'on ne comprend pas toujours. Cette perspective du français colonialiste, du français, est encore bien présente de nos jours, et ça, c'est profondément lié à la ségrégation qui a marqué la société française à partir justement des années 60, moment où beaucoup d'Algériens vivant en Algérie vont trouver du travail en France. Vont chercher du travail en France, en trouvent et y restent. Et donc aujourd'hui, on a encore du mal, on n'est pas encore guéri, à considérer que ces gens sont français, parce que d'abord, on est une ou deux générations après, on a affaire à des gens qui sont nés en France, je l'ai déjà dit. L'époque de la marche pour l'égalité en 1984, elle est loin maintenant. Et on a à la fois reculé et progressé par rapport à cette époque-là. On a reculé parce que aujourd'hui, il y a plus de racisme qu'avant, et le racisme est davantage cautionné. Je pense que, par exemple, l'affaire du Covid n'a rien arrangé, puisqu'elle va aggraver encore les inégalités et les rancœurs et les mécontentements des uns et des autres. Donc, la recherche de boucs émissaires et le phénomène de pauvreté économique va, je pense, augmenter le racisme, et que le malaise social, la fracture entre les Français, va davantage s'aggraver. Ça, pour moi, c'est une évidence. Sauf si, politiquement parlant, on avait affaire à du nouveau, c'est-à-dire quelque chose de nouveau qui nous est jamais arrivé, qui nous sorte des partis politiques habituels. Je n'ai rien contre la classe politique française, bien au contraire. Il y a des choses positives qui ressortent de tous les partis politiques. Mais je pense que les Français sont une période morose où Nous, et quand je parle des Français, je parle de tous les Français, y compris ceux qui ont eu des parents ou des grands-parents algériens. Et on est dans une période où cette morosité ambiante fait qu'on aurait vraiment besoin, si on ne veut pas complètement couler à tous les niveaux, renouveler notre classe politique et faire émerger de nouvelles idées sur le plan économique, sur le plan de la sécurité sociale, de la redistribution, sur le plan du travail. Il y a vraiment un grand chamboulement à faire pour que nous, citoyens français, on se réveille et qu'on sorte de cette morosité dans laquelle nous étions déjà plongés et que le Covid nous a complètement enferrés. C'est très important. Je pense que là, on va... Si on n'arrive pas à faire quelque chose pour modifier notre vision, notre façon de voir... De voir les choses, et si on n'essaye pas de renverser complètement les logiques qui sous-tendent nos politiques publiques et notre manière de les présenter aux Français, eh bien, dans un aspect ludique, en faisant en sorte au maximum qu'ils se sentent impliqués, nous courons à notre perte, à tous les niveaux, sur le plan de notre rayonnement international, comme sur le plan de notre niveau sur le territoire à proprement parler. Voilà. Donc, et ça, ce phénomène-là, il devrait normalement se faire en symbiose avec l'Algérie. Parce que, quelque part, tout à l'heure, José évoquait l'idée d'une gémellité. C'est une idée que j'évoque souvent à propos du Royaume-Uni. Pour moi, la France est jumelle avec l'Angleterre, bien davantage qu'avec l'Allemagne. L'Allemagne cherche à être la jumelle de la France, elle cherche à être sa grande sœur. Et on a bien vu ce que ça donnait lors des différentes guerres, celle de 1870, celle de 14-18 et celle de 1939-45. Donc ça ne marche pas. L'Allemagne cherche toujours à étouffer la France, à faire en sorte que la France lui obéisse. Par contre, la France est jumelle avec le Royaume-Uni et avec laquelle elle a travaillé sur la résistance et la libération. Elle est jumelle, ce sont mes deux sœurs jumelles, ça ne veut pas dire que ce sont deux sœurs qui sont toujours ensemble et qui s'enlacent tout le temps et qui fonctionnent toujours en accord. Deux sœurs jumelles, c'est deux sœurs qui se chamaillent tout le temps. Elles se chamaillent, elles se disputent, et il finit toujours par ressortir de leur rapport quelque chose de positif, quoi qu'il arrive. Et en général, aucune des deux ne prend le dessus sur l'autre. Elles arrivent malgré les disputes, elles finissent toujours par s'entendre. Et par faire quelque chose de positif. Et quand dans l'adversité, quand il y a besoin que l'une est attaquée ou qu'elle va mal, l'autre la soutient et la protège. Donc avec cette sœur jumelle au nord, la France peut penser qu'elle a un bon avenir devant elle. Elle est en sécurité affective, on va dire, entre guillemets. Si c'était une personne, on dirait ça. Pour un pays, on dirait qu'elle a un partenaire qui est territorial, qui est proche de son territoire, sur lequel elle peut compter quand elle en a besoin. Et pour parfaire cet écrin de protection pour la France, il faudrait faire la même chose au sud. Mais on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il y a eu la colonisation et parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie. Et ce pays qui est au sud, c'est un pays tout trouvé, c'est un pays exceptionnel. D'ailleurs, un pays qui est très très grand de par sa superficie géographique, on dirait une corne d'abondance qui plongerait en plein milieu du continent africain. Si quand on la regarde sur une carte, ça fait une pointe qui plonge dans l'Afrique. Donc c'est un pays exceptionnel qui est très riche. Les Français, la France coloniale en savait quelque chose puisqu'elle tirait de l'agriculture, de ces grandes exploitations agricoles qu'elle a su monter sur le territoire algérien. Beaucoup de choses, et ça nourrissait beaucoup la métropole. C'est une agriculture qui aujourd'hui est en décrépitude. Pourquoi ? Parce que les choix économiques qui ont été faits par les Algériens n'ont pas forcément été les bons. Je me souviens avoir vu l'ancien ministre de l'économie et des finances algérien. Nous, je crois que c'était le président du comité, conseil économique et social algérien. Et il, à l'époque, c'était Bouteflika qui était président de la République, et Bouteflika avait chargé ce monsieur d'aller se promener un peu partout sur le territoire algérien. Il lui a dit, si vous voulez bien connaître l'état de l'économie de l'Algérie, allez donc faire un tour en Algérie. Et donc, ce monsieur s'est promené, il a pris une voiture avec chauffeur, et il est allé se promener sur tout le territoire algérien. Il a fait, Dieu sait si c'est grand, hein, je ne sais pas si vous avez vu le film de Yann Arthus-Bertrand sur l'Algérie, il a fait le tour de l'Algérie, et il est allé voir comment ça se passait, et puis il a vu des grandes étendues, il a vu que ça avait beaucoup de richesses, il a vu qu'il y avait beaucoup d'agriculture, mais il a vu aussi que tout ça n'était pas très bien géré, qu'il y avait une petite agriculture vivrière d'autosuffisance, mais que ça n'était pas suffisant pour assurer les besoins du marché intérieur sur le plan alimentaire. Or, on l'a déjà vu dans certaines de mes émissions, il est indispensable pour un pays d'être autonome sur le plan alimentaire. Et qu'un pays fort économiquement, c'est un pays qui est capable d'alimenter toute sa population sans avoir recours à des importations. Et ça, c'est fondamental. Donc l'Algérie, qui est un grand pays immense, qui a un potentiel agricole énorme, n'y arrive pas. Et donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il a vu ça, et puis il a vu qu'il y avait beaucoup de pauvreté aussi. Il a vu que, à son regard pertinent, est apparu que l'industrie sur son territoire n'était peut-être pas assez développée, que s'il y avait des industries, c'était parfois des industries étrangères qui ne faisaient que créer des emplois et qui ne contribuaient pas à alimenter l'économie algérienne de manière suffisamment forte. Or, un pays, pour avoir une économie qui fonctionne bien, doit aussi avoir des entreprises nationales, pas des entreprises nationalisées par l'État, hein, mais des entreprises privées qui ont l'identité du pays où elles, avec des chefs d'entreprise et des entrepreneurs qui sont issus du pays. Et elles constituent en quelque sorte le socle, le squelette de l'économie, de la configuration économique du pays en question. Ça, l'Algérie, elle en a quelques-unes, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont implantées étrangères, qui sont implantées sur le territoire algérien. Et bien entendu, celles-ci, on sait comment elles fonctionnent, surtout quand elles sont des pays à faible salaire ou à économie moins forte. Elles en profitent pour avoir du personnel moins payé. Ça leur fait faire des économies. Les bénéfices vont quasiment intégralement à l'entreprise en question. Je pense notamment aux entreprises Lafarge, qui sont en Algérie aussi. Et elles, en fait, leur présence, même si elles créent des emplois, n'est qu'une présence instantanée, qui d'ailleurs rend les gens du pays indépendants de cette entreprise-là, alors que normalement, ils devraient non pas se référer à des entreprises étrangères, mais à l'État, mais bien à leur gouvernement et à leur État. Et donc, il est indispensable d'avoir des entrepreneurs, des petites et moyennes entreprises, des jeunes entrepreneurs sur le modèle de l'entrepreneur dynamique et innovant, et Dieu sait si les Algériens sont innovants et dynamiques, pour alimenter l'économie d'un État. Donc c'est très important et ça n'existe pas. Donc ce monsieur, le directeur du 16, du Conseil économique et social algérien, César, pardon, a fait le tour et puis après il est revenu. Alors il a fait un petit peu son rapport et puis il nous a dit effectivement l'économie algérienne n'est pas développée du tout. Elle est vraiment bien 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 en dessous de ses capacités. Et il en a tiré ses conclusions et fait ce qu'il avait à faire. Et voilà. Donc c'est comme ça que j'explique. C'est en rapport à ces inégalités-là, ce laxisme des autorités algériennes qui a conduit à ce que les Algériens se révoltent juste un petit peu avant que le Covid-19 ne sévisse, qui fait que cette gémellité avec la France, cet ensemble géométrique qui devrait s'aligner du nord au sud pour partir du nord du continent européen en allant jusqu'aux portes de l'Afrique, eh bien, il ne peut pas se construire parce qu'il y a eu des blessures et des traumatismes dans l'histoire. Alors, je ne dis pas, bien sûr, que l'essentiel de la gabégie algérienne, sur le plan économique et politique, est essentiellement tiré de la colonisation. D'abord, il n'y a pas eu que la colonisation des Français, il y a aussi eu la colonisation des Turcs et des Arabes. Mais cela dit, et puis peut-être qu'il y a eu une période de l'histoire où certains peuples qui avaient vécu une certaine progression, celle qui tend vers la mise en place d'un État unifié, et puis celle d'un développement économique et de l'économie et du commerce plus organisé, plus dense, était nécessaire. Peut-être que cette période-là, où certains peuples qui avaient subi cette évolution, colonisé les autres, était importante pour que se développe la civilisation dans le monde entier. Mais cela dit, aujourd'hui, on peut en guérir puisqu'on a justement notre droit international et nos droits internes qui nous disent, qui nous répètent sans cesse qu'il faut que nous, êtres humains, nous soyons à égalité, que la loi du plus fort, c'est pas celle qui permet de faire le mieux fonctionner un peuple ou un État, et que donc on se doit aujourd'hui d'être à égalité. Et cette gémellité entre la France et l'Algérie, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, au même titre qu'avec le Royaume-Uni. Avec le Royaume-Uni, on a quand même eu la guerre de 100 ans, on ne s'est pas toujours entendu. Il y a eu des blessures et des traumatismes, même s'ils sont enfouis et beaucoup plus anciens. Donc, pourquoi pas, pourquoi est-ce que on ne pourrait pas faire la même chose avec l'Algérie? Donc, moi, je pense que c'est très important pour que la France signe l'aboutissement de son destin, qui est un destin assez particulier, un destin qui vise vers l'imposition d'un paradigme de paix dans le monde et également la primauté du fait culturel sur le fait économique, à proprement parler, économique dans le sens où l'entendent les capitalistes, hein, bien entendu. Au contraire, pour moi, l'économie, c'est quelque chose de très culturel, mais je pense à l'économie au sens de maison-mère, au sens d'Aristote, hein, pas du tout au sens capitaliste du terme et au sens d'indicateurs chiffrés de croissance ou de produits intérieurs. Donc, pour en revenir au rapport entre la France et l'Algérie, le destin français se joue aussi à travers l'Algérie, même si aujourd'hui, la guerre d'Algérie s'est terminée. Et encore pire, l'Algérie française s'est terminée. Il y a encore des gens à notre époque qui ne veulent toujours pas accepter que l'Algérie française se soit finie. Là, on leur dit non, l'Algérie est algérienne. Et par contre, si on accepte, à partir du moment où on accepte que l'Algérie soit algérienne, ça veut dire que on reconnaît ça veut dire qu'on reconnaît avec dans sa plus grande plénitude le fait que l'Algérie et la France sont deux pays qui ont un destin particulier qui les lie et qu'elles sont complémentaires et dépendantes et complémentaires l'une avec l'autre. On va mettre de côté la dépendance parce que l'Algérie a tout son côté africain à développer et elle devrait être importante sur le continent africain. Mais l'Algérie et la France, là je pense à ses rapports avec la France, l'Algérie et la France ont deux destins qui sont complémentaires. Et là, je ferai plaisir aux nostalgiques, aux vrais nostalgiques de l'Algérie, de l'époque de l'Algérie française, c'est-à-dire ces gens qui étaient français, qui vivaient sur le territoire algérien et qui ont eu beaucoup de chagrin quand ils sont partis du territoire algérien. Et en leur disant, l'Algérie ne sera plus jamais française, elle ne sera plus jamais à vous, mais vous avez, entre les deux pays, il y a un destin. Et de ce destin, dans le ciment de ce destin, il y a ces gens qui ont été Français d'Algérie et qui ont dû partir et qui ont laissé derrière eux beaucoup de nostalgie, beaucoup de regrets, une forme d'injustice. Pourquoi est-ce qu'on m'a fait partir du pays où je suis née? Et ces gens-là sont encore nombreux. Parmi eux, il n'y a pas que des gens qui votent Rassemblement National et qui cassent du bougnoule, on va dire, entre guillemets, excusez-moi l'expression. C'est une expression un peu crue, mais je n'ai insulté personne. Hein. Je répète juste ce que disent certains. Il y a aussi beaucoup de gens qui avaient des amis algériens sur le territoire algérien, avec qui ils vivaient en fraternité, et qui aujourd'hui en France ont conservé des rapports avec des citoyens algériens, avec des gens d'origine algérienne, et qui choisissent leurs amis d'ailleurs non pas seulement en fonction de leur identité ou de leur origine, mais aussi beaucoup parce que par affinité tout simplement. Et donc à ces gens-là, j'aimerais qu'on puisse un jour leur dire, les rapports entre la France et l'Algérie sont particuliers et spécifiques, et les deux pays ce sont des pays jumeaux. Et là, vous recréez l'axe qui protège la France, qui part du nord, le Royaume-Uni, qui descend en Afrique par l'Algérie, avec ses deux sœurs jumelles. Donc ce serait des triplés, on va dire, entre guillemets. Ça, c'est beaucoup plus réjouissant que l'autre axe, Est-Ouest. Ça me fait penser un petit peu à la porte de Brandebourg à Berlin, qui séparait autrefois l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Alors, sur laquelle il y a des chevaux qui courent, qui tirent un char. Alors, on ne sait jamais de quel côté il faut mettre les chevaux. Est-ce qu'il faut les mettre un coup, on les met à l'Est, un coup, on les met à l'Ouest, après, on les remet à l'Est. À côté, il y a ce parlement d'une Allemagne qui ne se connaît pas elle-même, qui n'a pas pu faire de rétrospective sur elle-même, qui est une Allemagne fédérale, une Allemagne régionale des régions qui sont différentes les unes des autres, avec un État unique et unifié qui a été mis en place très 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 maladroitement par des gens comme des dictateurs, on va dire, et donc de manière superficielle, forcément. Quand un dictateur fait les choses et impose les choses, ça ne se passe jamais bien, parce que les gens, l'être humain est ainsi fait qu'il a besoin, pour intégrer quelque chose, de l'intégrer de la manière... via ce qu'on appelle le soft power, d'une manière douce, d'une manière progressive et calme, et non pas dans la violence. Et donc, l'axe Est-Ouest n'est pas l'axe le plus positif pour la France, le véritable, et pour le monde. L'axe le plus important, c'est d'abord l'axe Nord-Sud. Et bien entendu, ça ne veut pas dire que les rapports Est-Ouest ne sont pas intéressants. Les pays de l'Est sont très intéressants, la Russie aussi, les États-Unis aussi. Mais je pense qu'on doit d'abord privilégier l'axe Nord-Sud. D'ailleurs, lorsque vous construisez un épouvantail ou lorsque vous construisez une statue à partir de bouts de ferraille ou de bois, pour ceux qui font des arts plastiques, eh bien, on commence le bonhomme, on lui donne d'abord des jambes et des bras. Et donc, on commence toujours on lui donne d'abord des jambes et une tête. Donc, on commence jamais à créer une marionnette en le créant ses bras. On commence à la créer dans une perspective verticale, avec des pieds, des jambes, un tronc et puis une tête. Voilà. Donc, ça fait un petit moment que je parle déjà. Je vais mettre un petit peu de musique et on va continuer avec les événements d'octobre 61. Je pense que c'est nécessaire d'en parler. On a le temps de toute façon, puisque j'ai prévu une dizaine d'émissions, et là on en est à la 6, sur cette thématique-là. On va écouter à nouveau Jamel Alam, qui est notre chanteur phare pour cette série d'émissions-là. Et on va écouter « Stella. C'est un titre qui date de 1974. Il signifie « Il y a une place dans mon cœur ». Voici, c'était Tella de Jamel Alam. Donc, il y a une place dans mon cœur. J'avais dit que Jamel Hallam, ça serait notre acteur fétiche, notre musicien fétiche. Il est né le 26 juillet 1947 et mort malheureusement le 15 septembre 2018. Nous allons continuer avec l'affaire de octobre 1961. Simplement, je voulais repréciser, on était en train de parler de l'histoire des relations entre la France et l'Algérie. On passe justement de cette période sous François Hollande où on commence à peine à évoquer les massacres d'octobre 1961 après une autre période de silence implacable. Et puis après, on a Emmanuel Macron qui arrive. Emmanuel Macron, qui est un homme politique qui est issu d'une génération un petit peu différente, d'une génération où on relativise, on est souvent allé sur les bancs de l'école avec d'autres camarades de classe qui ont des prénoms et des noms de famille algériens, étrangers, africains, béninois, somaliens, sénégalais, burkinabés, ou algériens, marocains ou tunisiens ou égyptiens. Et donc on voit les choses de manière très différente. C'est une éducation qui se fait par l'expérience et par le sensible. C'est-à-dire que c'est une génération qui est beaucoup plus ouverte sur ce plan-là. Ce n'est pas une génération qui a vécu les bidonvilles où sont venus s'entasser quelques Algériens après une guerre où on a vu les gens se massacrer entre eux et les pieds noirs revenir en masse à réhabiter sur la métropole avec toutes les rancœurs qu'ils ont pu avoir contre cette injustice qui les a fait partir du pays où ils étaient nés. Et donc cette génération-là est plus ouverte, c'est ce qui pour moi explique que Emmanuel Macron ait eu beaucoup moins de mal que les hommes politiques qui l'ont précédé, issus de d'autres générations, à évoquer la guerre d'Algérie et à commencer quelque part à vouloir guérir la France de ce traumatisme du silence. Et j'ai bien dit guérir la France parce que Emmanuel Macron est président de la République française et pas président de la République algérienne. Donc s'il fait tout ça, c'est pas pour l'Algérie, c'est pour la France, c'est pour le pays qu'il représente. Or, on sait qu'il y a un malaise sur le territoire français, entre Français, dont certains, une partie sont d'origine, leur culture de ce pays-là, et enfin ont des ancêtres qui ont été algériens et qui parfois sont musulmans. Il y a aussi cette problématique-là à régler. Et on sait qu'il y a eu beaucoup d'interventions qui ont été faites, notamment pour qu'il y ait des instances légitimes de représentation du culte musulman en France, des instances qui soient à la fois légitimes par leur savoir universitaire, leur affiliation à certaines écoles de pensée et leur biographie. On sait qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont commencé à être faits sous Emmanuel Macron. Je ne dis pas que les présidents d'avant n'avaient rien fait, hein, bien entendu, mais ça s'accélère et il y a certains tabous qui partent, et notamment dans ces tabous-là il y a la reconnaissance justement des rapports privilégiés entre la France et l'Afrique, et notamment la France et l'Algérie, et il y a cette volonté de parler, d'évoquer les blessures anciennes et pour la première fois de la part d'un homme politique français de cette envergure, puisqu'il est quand même président, de critiquer la France, de critiquer le comportement de la France envers le peuple algérien et envers le territoire algérien pendant la France algérienne, pendant l'Algérie française, mais aussi pendant la guerre. Alors, elle a déjà d'abord commencé par évoquer la colonisation en la comparant à un génocide. Et puis, par contre, il n'est pas allé aussi loin. L'octobre 1961, pour l'instant, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas encore levé le rideau, levé le tabou. Mais il y a un premier pas de fait, et justement ce premier pas il est fait avec le rapport Benjamin Stora. C'est cette commande à Benjamin Stora, qui est un historien algérien qui a travaillé toute sa vie, qui a fait beaucoup de recherches sur l'Algérie, et notamment l'Algérie française. C'est un personnage qui est aussi un personnage politique, dont le choix politique de lui demander à lui de rédiger le rapport sur les rapports entre la France et l'Algérie n'est pas anodin, parce que on a déjà parlé des Juifs d'Algérie, dont on a dit qu'ils étaient sur le territoire algérien depuis très longtemps, depuis l'Antiquité, que ce n'étaient pas des colonisateurs, mais comme beaucoup de gens issus de la diaspora juive, des gens qui s'installaient sur le territoire, qui avaient une très grande facilité d'adaptation au territoire et à la culture en place, et qui évoluaient avec, mais que ces gens-là ont dû partir en France, alors qu'ils n'y avaient pour la plupart jamais habité depuis des générations. Certains venaient, beaucoup venaient du Moyen-Orient, et que ces Juifs d'Algérie jouent un rôle clé, ils ont une position particulière, d'ailleurs comme dans tout le Maghreb. Et Benjamin Stora est juif, et c'est quelqu'un qui, de par sa culture, est capable de concilier les parties. Et donc le fait que ce rapport-là lui ait été commandé n'est pas... c'est pas quelque chose qui est complètement anodin. C'est quelque chose. Le choix n'a pas été fait n'importe comment. Ensuite, quand on lit le rapport, on voit qu'il y a une série d'événements qui sont évoqués. Benjamin Stora laisse une large part à la culture, aux écrits, aux réalisations, aux films, aux émissions. Aux œuvres artistiques des uns et des autres. Il ne parle pas beaucoup de peinture ni de musique, mais il parle beaucoup de romans, il parle beaucoup de films. Il parle beaucoup de ce qui fait appel à l'émotion directe. L'émotion directe après laquelle on parle, celle qui porte à débat, les chevaux du soleil, etc. Celle qui fait que après la diffusion du film ou après avoir lu le livre, on a envie de le partager avec d'autres et d'en parler. Et ça, c'est très important. Parler. C'est la méthode du divan. Et là, France et Algérie, on en a beaucoup besoin. Et donc, dans ce rapport-là, j'ai pas dit qu'il y avait rien. Au contraire, il y a beaucoup de choses. C'est un outil précieux pour bien se construire une représentation de la trame des rapports franco-algériens après 1962. Mais il n'est pas suffisant. C'est un début, c'est un indispensable, c'est un préalable indispensable, mais qui pour moi est l'ouverture, c'est comme une serrure qui nous ouvre vers un monde. On ouvre une porte et on tombe sur un nouveau monde. Et bien c'est ça le rapport à Benjamin Stora, il faut le considérer comme une serrure dans laquelle on met une clé, c'est la clé de la compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut lire le rapport à Benjamin Stora, et ensuite on ouvre la porte et on tombe sur un monde, et ce monde il est très chargé. Et au début de ce monde, il y a un petit peu des nuages avec de la pluie, quelques buissons avec des épines, et puis plus on avance, plus c'est comme dans le jardin de la rose au Moyen-Âge, plus on avance, plus le ciel est bleu, plus il fait beau, plus il y a des fleurs, plus il y a des oiseaux qui chantent. Voilà comment on doit se représenter le rapport Benjamin Stora, comme une serrure. Et je pense que c'était délibéré de la part des autorités françaises que de demander à Benjamin Stora de construire un rapport qui n'était pas trop partisan. C'est un rapport d'historien, avant tout. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, quand je parle d'octobre 1961, j'en parle en prenant sur moi, c'est-à-dire que nous faisons une émission sur les rapports entre la France et l'Algérie à la lumière du rapport Benjamin Stora, mais en même temps, nous qui faisons une émission sur Radio Galère à Mai de Résistance, on se permet de parler d'octobre 1961. Pourquoi ? En espérant tout simplement qu'il y a des auditeurs qui vont nous entendre en parler et qui vont avoir envie d'abord de mieux savoir ce que c'est que cet événement. C'est pour ça que je l'ai relaté, parce que je trouve que l'article sur Wikipédia, même si on peut critiquer Wikipédia, mais celui-ci est très bien fait, parce qu'il est très complet sur les polémiques entre historiens qui ont secoué le monde des historiens juste après 1961. Et je trouve que c'est très important de parler de cet événement-là, pour d'abord pour qu'on le connaisse mieux, C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment pour ensuite en débattre. Donc c'est pour ça que j'en parle. Donc la dernière fois, je parlais de ce long silence que justement le rapport Benjamin Stora commence à briser. Et un long silence qui a été plébiscité pas seulement par les gouvernements français, c'est pour ça que je me permets d'insister aujourd'hui pour remettre les choses un peu en place et pour dire, il n'y a pas que le gouvernement français qui veut du silence, il y a aussi le gouvernement algérien. Ceci ne veut pas, le FLN ne veut pas qu'on parle trop des choses. Parce que à cette époque-là, on sait que le Front de Libération Nationale a beaucoup épuré en son sein. Et à cette époque-là, les gens qui ont organisé la mobilisation en France d'octobre 61 se revendiquaient des indépendantistes et du Front de Libération Nationale. Mais ils s'en revendiquaient, mais après, ils ont été éradiqués du Front de Libération Nationale parce qu'ils sont devenus des opposants. On sait qu'il y a eu des querelles au Front de Libération Nationale pour la représentativité politique des chefs, des leaders de l'indépendance. Et donc, ceux qui avaient organisé justement cette manifestation en France en octobre 61 sont devenus des opposants. Donc, le Front de Libération Nationale a largement contribué lui aussi à ce silence et à cet oubli. Et enfin, il y a ce que nous dit l'article de Wikipédia à travers deux historiens anglo-saxons qui sont House et Neil McMaster. L'État français veut nier les faits et dissimuler, mais il y a aussi la gauche institutionnelle qui ne veut pas. En fait, la gauche, on a peur que la gauche institutionnelle prenne à son actif ce drame. Et donc, on dit. Niet, on n'en parle plus. Voilà. Donc, plusieurs désirs d'oubli. Et puis, j'allais dire quelque chose qui est difficile à comprendre. Et c'est une théorie de Neil McMaster et de House, les deux historiens anglo-saxons dont je vous ai parlé. C'est que du côté de la gauche institutionnelle, bien entendu que l'État français d'alors a très peur qu'on récupère à son actif, à l'actif de la gauche institutionnelle ou pas, les massacres d'octobre 61. Mais il y a aussi le fait que la gauche institutionnelle faisait reposer beaucoup de sa légitimité politique sur les attentats du métro Charonne, sur la manifestation Charonne contre l'OAS en février 1962, donc bien après. Et que donc celle-ci a eu peur que le drame d'octobre 61 ne devienne plus important que celui de la manifestation de Charonne en février 62. Parce que de cette manifestation, elle trouve une série d'arguments à mettre en avant qui pourraient l'aider dans son accession au pouvoir, qu'elle ne trouve pas dans octobre 61. Et c'est ce dont on parlera la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous en terminerons avec le massacre d'octobre 61 en évoquant deux ou trois dernières polémiques. Et on parlera justement de la manifestation de Charonne en 62 contre l'OAS pour expliquer pourquoi la gauche institutionnelle y fait son beurre. Et pourquoi ces deux événements qui finalement ont les mêmes victimes au fond des choses sont deux événements qu'on a souvent au lieu de les lier entre eux, opposés. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. J'ai hâte de terminer avec cette thématique qui est très intéressante des massacres d'Algériens et de la répression française contre les Algériens à Paris parce qu'elle nous aide beaucoup à faire la lumière sur ce qu'est devenue la France aujourd'hui et elle nous aide aussi à guérir de nos blessures. À très bientôt, à lundi prochain.